Ma fille aînée aime peindre ce qu'on appelle des natures mortes, un pot, des fruits, enfin tout ce qui ne bouge pas. Or, il me semble qu'il n'y a rien de plus inerte qu'un caillou. Pourtant, l'apôtre Pierre utilise l'expression pierre vivante, qui est une contradiction de termes, sauf qu'il se place selon une perspective spirituelle. Je continue à lire dans le second chapitre de la première épître de Pierre. Jésus est la pierre vivante. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Verset 5. Jésus a dit à Pierre, « Tu es une pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. » Ce passage a fait couler beaucoup d'encre, mais ici Pierre nous donne la réponse puisqu'il identifie clairement Jésus-Christ comme le roc sur lequel l'église est bâtie. L'apôtre Paul dit la même chose quand il écrit « Vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu ». Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et, unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. » Fin de citation. Paul appelle l'Église un temple, une demeure ou habitation. Le temple de l'Ancienne Alliance symbolisait la présence de Dieu, mais c'était un édifice temporel, matériel, construit en pierre de taille. Tandis que sous la Nouvelle Alliance, ce sont les croyants eux-mêmes qui forment la maison spirituelle de Dieu. Celle-ci est construite avec des pierres vivantes qui ensemble constituent le peuple de Dieu et la famille de Dieu. Les croyants sont joints à Jésus-Christ en tant qu'élément d'une structure spirituelle dont lui est la pièce maîtresse. Ils deviennent ainsi participants de la nature divine. Tous ceux qui viennent à Jésus en tant que pécheurs et qui implorent sa grâce sont sauvés et intégrés d'office à l'édifice de Dieu qui est l'Église universelle. Dans ce temple spirituel qui est la communauté chrétienne du monde entier, les croyants sont comme les prêtres de l'Ancien Testament. Ils n'ont pas besoin de médiateur autre que Jésus pour s'approcher directement de Dieu et lui offrir des sacrifices, sauf qu'au lieu d'animaux, ils offrent des sacrifices spirituels, une expression qui signifie les louanges du peuple de Dieu et plus particulièrement la célébration de ses œuvres merveilleuses. Mais après avoir rendu des actions de grâce et dit sa reconnaissance à Dieu, le croyant est aussi tenu d'intercéder pour lui-même et pour les autres. Au début du 5e siècle de notre ère, un certain Jean fut surnommé Chrysostome, ce qui signifie « bouche d'or » à cause de la puissance de ses prédications. Père de l'Église et nommé archevêque de Constantinople, c'était aussi un homme de prière. Il a dit « La puissance de la prière a dompté la fureur des incendies, calmé la rage des lions, fait taire la clameur de l'anarchie, éteint des conflits, apaisé les éléments, chassé les démons, brisé les chaînes de la mort, élargi les portes du ciel, calmé les maladies, éradiqué la fraude ». Sauver des cités de la destruction, arrêter le soleil dans sa course et stopper le vol de l'éclair. La prière est un arsenal complet, un trésor intarissable, une mine inépuisable, un ciel toujours lumineux, un firmament que ne trouble jamais le moindre orage. C'est la maîtresse aux racines, la source jaillissante, la mère de milliers de bénédictions. Fin de citation. Le premier des sacrifices spirituels que le croyant doit offrir à Dieu est la consécration totale de soi, ensuite la louange, puis après la prière vient le service chrétien, la bienfaisance, la libéralité et l'entraide, mais pas nécessairement dans cet ordre. Je continue le chapitre 2 de l'Épître. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'Écriture à ce sujet. « J'ai choisi une pierre de grande valeur et je la pose en Sion, à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. » Verset 6. Pierre cite un texte prophétique selon l'ancienne version grecque. Littéralement, il dit « Je place en Sion une pierre choisie comme fondation d'angle précieuse. » L'expression « pierre choisie » est particulièrement judicieuse parce qu'elle se réfère à la construction du temple de Salomon qui fut assemblé comme un gigantesque puzzle. En effet, les pierres étaient taillées d'avance aux dimensions exactes dans les carrières, puis acheminées sur place et emboîtées les unes dans les autres. Je lis le passage. Lorsqu'on édifia le temple, on n'employa que des pierres déjà entièrement taillées, de sorte que, pendant la construction, on n'entendit aucun bruit de marteau, de pic ou d'autres instruments de fer dans le temple. C'était par révérence pour Dieu que le travail se faisait en silence. Dans l'Antiquité, on posait la pierre d'angle qui servait d'assise et de référence pour l'ensemble de la construction. Aujourd'hui, on fait pareil, mais ce sont des fondations en béton banché qui soutiennent des moellons. Dans l'Ancien Testament, le mot « Sion » est fréquent et désigne l'aspect spirituel et glorieux de la ville de Jérusalem. Dans le Nouveau Testament, « Sion » symbolise la Nouvelle Alliance et les bénédictions célestes, tandis que le mont Sinaï, où fut donnée la loi, représente l'Ancienne Alliance, la servitude et le jugement. Jésus est la pierre à l'angle de l'édifice, le soutien visible sur lequel tout le bâtiment, c'est-à-dire l'Église, s'appuie pour trouver sa stabilité. Tout comme une construction repose sur sa pierre angulaire, ou de nos jours sur des fondations, celui qui place sa foi et son espérance en Jésus obtient le salut. Alors Dieu lui promet qu'il ne connaîtra jamais le déshonneur, c'est-à-dire qu'il ne sera pas confus. En grec, Pierre utilise une double négation, ce qui indique une affirmation négative très énergique. C'est comme si l'apôtre disait « Celui qui met sa confiance en cette pierre vivante, jamais, au grand jamais, il ne connaîtra le déshonneur. » Un cantique latin du 7e siècle qui paraphrase le verset 6 dit « Christ est une fondation sûre, Christ, chef et pierre angulaire, choisie et précieuse, unissant l'Église en un seul corps, le secours éternel de Sion est son seul appui. » Fin de citation. Je continue le texte. Pour vous donc qui croyez, l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale, à l'angle de l'édifice, une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher. Parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur arrive ce qui était prévu pour eux, ils tombent à cause de cette pierre. Versets 7 et 8. Pierre cite ici, bout à bout, deux passages de l'Ancien Testament. L'un tiré du livre des Psaumes et l'autre du prophète Ésaïe. Ces deux versets établissent le contraste saisissant entre ceux qui ont placé leur confiance en Jésus et ceux qui ne croient pas en lui. Pour les premiers, Jésus est précieux, car il est une pierre vivante d'une valeur inestimable. Mais pour les seconds qui rejettent le Christ, il est la pierre qui les fait d'abord tomber, pour ensuite les écraser par son jugement. C'est ce qui arriva au chef religieux juif à qui Jésus cita la portion du psaume. Selon la prophétie d'Ésaïe que rappelle Pierre, la parole de Dieu et Jésus-Christ désignent la seconde personne de la Trinité. C'est d'ailleurs aussi ce que dit l'apôtre Jean quand il écrit « Au commencement était la parole, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Fin de citation. Cette équivalence entre Jésus et la parole signifie aussi que rejeter l'un, c'est rejeter l'autre. Accepter l'un, c'est accepter l'autre. Tous ceux qui ne choisissent pas Jésus comme leur sauveur devront un jour comparaître devant lui, mais alors, il sera leur juge. Tous les incrédules trébucheront sur la pierre d'angle, c'est-à-dire qu'ils seront condamnés. Je continue le texte. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois-prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Verset 9. Pierre passe en revue la panoplie bien garnie des privilèges spirituels accordés à ceux qui ont accepté de suivre Jésus-Christ. Il tient le joyau de la rédemption à la lumière de la grâce divine afin de mettre en valeur ses couleurs magnifiques et d'éclairer les multiples bénédictions spirituelles que Dieu réserve à ses enfants. Quand l'apôtre a écrit ces lignes, il avait probablement plusieurs passages de l'Ancien Testament à l'esprit. Au nom de l'Éternel, Moïse dit aux Hébreux sortis d'Égypte, « Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Tu es en effet un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. » Et le prophète Ésaïe écrit « Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Fin de citation. Initialement, Israël a été le peuple élu, un peuple précieux, un royaume de prêtres, une nation sainte. Mais maintenant, ce sont ces lecteurs que Pierre appelle une race élue. Cette expression qui, auparavant, était spécifique à Israël est dorénavant appliquée aux croyants, autant ceux d'origine juive que païenne. Sous le régime de la Nouvelle Alliance, et seulement pendant ce temps qu'on appelle celui de la grâce, l'Église prend le relais d'Israël comme peuple de Dieu. Les croyants à qui Pierre écrit étaient dispersés et persécutés. Certains fuyaient et une campagne d'extermination organisée par l'empereur Néron était sur le point d'être menée et lancée contre eux. En apparence, ils n'avaient donc rien d'un peuple précieux ni d'une race élue sinon pour être massacrés. Et pourtant, en acceptant Jésus comme leur sauveur, ils avaient confirmé qu'ils avaient été choisis par Dieu pour lui appartenir. À ses disciples, Jésus a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. » Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, les Écritures ne laissent planer aucun doute sur l'origine du salut. Il dépend de la décision du Dieu souverain qui décide qui seront les élus. Tous les privilèges du croyant ici-bas et dans l'au-delà découlent de la grâce de Dieu qui les a choisis et prédestinés. Pierre continue de passer en revue la panoplie des privilèges spirituels et il écrit « Vous êtes une communauté de rois-prêtres ». Plus tôt dans ce chapitre, il a dit « Et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Jusqu'à ce que la loi de Moïse soit promulguée, le chef de famille exerçait la prêtrise dans son foyer, à l'exemple de Noé et de tous les patriarches. Aux Hébreux sortis d'Égypte, Dieu a donné la loi et leur a dit « Si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un royaume de prêtres. » Mais comme ils se sont rebellés contre Dieu, la prêtrise fut restreinte à une famille de la tribu de Lévi, celle d'Aaron. Tout comme chaque descendant d'Aaron devenait prêtre par hérédité, le croyant acquiert le droit au sacerdoce par la nouvelle naissance. Les fidèles à Jésus-Christ sont prêtres non pas parce qu'ils ont reçu un pouvoir quelconque, mais dans le sens qu'ils ont un libre accès auprès de Dieu, au nom de Jésus et grâce à son sacrifice dont la valeur est infinie et permanente. Pierre appelle ses lecteurs des rois prêtres, littéralement une maison royale de prêtres. Jésus a dit à ses disciples « Comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. » Et l'apôtre Jean écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. » Le premier roi prêtre fut Melchisédek et sa double fonction prophétisait celle du Christ. En troisième lieu, Pierre dit « Vous êtes une nation sainte », littéralement un peuple saint. Dans les Écritures, le mot « saint » ne veut pas dire « sans péché » ou « pieuse à l'extrême », mais simplement « mis à part pour Dieu ». Il s'agit des croyants qui, ayant cru en Jésus, sont sauvés. Cependant, ils possèdent aussi le statut de juste devant Dieu, non pas à cause de leur mérite, mais parce que la justice de Dieu leur a été imputée, attribuée, du fait de leur foi. C'est un peu comme s'ils avaient revêtu une aube ou une belle robe toute blanche, mais en dessous, ils sont encore bien noirs. Quatrièmement, Pierre dit à ses lecteurs qu'ils sont un peuple libéré. Ce mot signifie « acheter, acquérir, obtenir ou préserver ». Les croyants appartiennent à Dieu parce qu'il les a payés au prix fort. Dieu appelle des gens de toutes les nations pour qu'ils lui appartiennent. Le psalmiste s'exclame « Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». Mais si Dieu nous a libérés, écrit Pierre, c'est dans un but, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Le mot pour œuvre merveilleuse signifie actes héroïques qui suscitent l'admiration, comme par exemple l'œuvre de la rédemption. Le fait que Dieu appelle des pécheurs misérables et sans le moindre mérite à passer des ténèbres à son admirable lumière. Il existe plusieurs sortes de ténèbres. Au niveau intellectuel, c'est l'ignorance, la méconnaissance de la vérité ou de la réalité. Au niveau moral, c'est l'incapacité de faire ce qui est bien selon Dieu. Enfin, au niveau spirituel, c'est l'état dans lequel se trouvent tous les hommes qui n'ont pas reçu le pardon de leurs péchés. Le problème des non-croyants est qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans les ténèbres, ce qui fait qu'ils s'y complaisent et considèrent même la lumière de Dieu comme une menace. Voilà bien une preuve supplémentaire que sans l'intervention souveraine du Saint-Esprit, il est tout à fait impossible à l'homme de sortir de ses ténèbres. Les croyants ont été appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière, ou comme dit l'apôtre Paul, « Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Je continue le texte. « Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. » Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Verset 10. À une certaine époque, les lecteurs de Pierre, tant juifs que païens, étaient des étrangers à la vie de Dieu. Mais maintenant, Ils font partie du peuple de Dieu qui est au bénéfice de sa grâce. Pierre applique à ses lecteurs un texte prophétique qui fut adressé aux Israélites des 10 tribus du Nord. Dans le passage qu'il cite, l'Éternel dit au prophète Osée d'appeler sa fille la non-aimée parce qu'elle personnifie Israël Nord qui n'est plus au bénéfice de la grâce divine. Dieu dit aussi à Osée d'appeler son fils pas mon peuple, pour la même raison, parce que l'Éternel rejette le royaume des 10 tribus. Cette menace n'est pas restée lettre morte, puisque Israël Nord fut envahi, détruit et emmené en captivité par les Assyriens. Mais un jour, continue la prophétie d'Osée, au lieu même où on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Vous êtes les enfants du Dieu vivant ». Cette promesse se réalisera à la fin des temps pour les descendants d'Abraham. En effet, d'après de nombreux passages des Écritures, quand Jésus établira son royaume de 1000 ans sur terre, Dieu aura compassion des fils de Jacob et il les sauvera. Mais, en attendant ce jour, cette prophétie d'Osée s'est déjà accomplie pour tous les croyants, juifs et païens, qui sont entrés dans l'admirable lumière du royaume de son fils bien-aimé et qui sont devenus le peuple de Dieu et l'objet de sa grâce.